bon midi, j'espère que ça se passe bien pour vous en ce vendredi, en ce vendredi très frette, mesdames et messieurs.
Frisquet, c'est pas de bon terme.
Non, c'est frette aujourd'hui, puis depuis ce matin, mais chose certaine, l'hiver nous montre un peu de quel bois il chauffe, puis c'est bien correct, hein, on est au Québec, on doit apprécier nos quatre saisons, et un petit rappel pour vos pneus d'hiver. Si jamais vous en avez besoin, là, je pense qu'aujourd'hui...
Il commence à être tard pour faire des rappels. Ça devrait être fait.
Ça a commencé comme plus tard cette année. Plus tôt, le froid, la neige. Fait que les gens n'étaient pas habitués. Si tu te fies au garagiste, t'étais d'avance en octobre quand t'as appelé. Finalement, t'étais en retard. On salue la vente de livraison Amazon hier. Il y en a qui prenaient le clos puis qui n'étaient pas ferrés pour nos températures. Mais là, rendu le 5 décembre, je veux dire comme toi, mon cher Mathias... C'était le temps. Salut, Matt.
Salut, salut.
Merci d'être là ce midi.
Ça fait plaisir. On va avoir du fun à midi. On va avoir du fun.
Assurément. C'est sûr que c'est un peu contradictoire, mais moi, si la température en studio pouvait baisser un peu, je serais content.
On chante qu'il fait frais dehors. On chante qu'il fait chaud en dedans.
Non, honnêtement, le studio, je vais essayer de compenser pour la température extérieure. Puis je le dis, puis en même temps, je me sens mal pour nos travailleurs qui affrontent ce froid-là aujourd'hui. On dit moins 14 là, sur les prévisions Environnement Canada comme minimum aujourd'hui. Non, on est à moins 17 déjà. Et avec le facteur éolien, c'est moins 28 ou presque aujourd'hui. C'est sûr qu'avec le facteur éolien, il faut s'attendre à le sentir une fois tout nu face au vent. Je pense pas que ce soit une bonne idée, à moins que vous ayez eu inspiration du gars qui se frottait ses hôtes de char dans les dernières heures. Mais ça, rappelez-vous, c'est au criminel que ça s'est rendu. Fait qu'on le conseille à personne. Habillez-vous chaudement. C'est le conseil d'aujourd'hui. Puis Jeff est pas là. Jeff, c'est un bon papa. C'est un papa impliqué. C'est un gars qui aime justement prendre du temps avec ses gars dans leur passe-temps. Fait qu'il y a un petit tournoi de hockey aujourd'hui. Puis je pense que ça va s'achever, là. C'est ses dernières années de tournoi de hockey, tout ça. Donc, comme bien des parents québécois aujourd'hui, il y a eu à braver nos routes pour aller encourager les siens sur des bancs gelés d'aréna. Et où, ça, c'est si ils coachent pas, là.
Bien, ça fait des semaines chargées, veux pas, là. J'ai l'habitude de dire, Jeff, quand il prend congé, c'est pas vraiment un congé.
Non.
Puis c'est encore le cas. Puis je pense que là, on est quand même dans la période depuis novembre. Là. Novembre, début décembre, souvent, il y a beaucoup de tournois de hockey. Ouais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui font leur semaine, qui arrivent à la fin de semaine, puis finalement, c'est pas trop relaxant parce qu'ils partent en tournoi toute la fin de semaine. Fait que force à vous, lâchez pas, on y arrive.
Quand on pense que le 2-3 ans là, au niveau de l'enfance est passé avec les enfants, puis qu'on va avoir un break, ben non, il y a d'autres choses qui arrivent. Mais ça leur fait des super beaux souvenirs. Fait qu'on souhaite à tout le monde d'avoir un magnifique week-end. Profitez-en, ça passe vite avec les enfants. Puis à un moment donné, on cligne des yeux puis ils sont plus là. Puis la dernière chose qu'ils ont envie de faire, c'est de la place dans leur horaire entre leur petite blonde, leur chum de gars, leur ci, le ça, pour aller voir papa-maman. Mais c'est une denrée rare le temps que vous avez là. Hey Mathias, avant de passer à du bon temps avec notre invité, qui passe toujours très vite ce vendredi-là, il y a une nouvelle du jour et assurément quelque chose à surveiller dans les prochaines minutes.
Oui, tout d'abord, pour la nouvelle du jour, ben en fait, la nouvelle des trois dernières semaines, on n'a pas le choix de le dire. Puis il y en a qui sont peut-être écœurés d'en entendre parler, mais c'est parce que on a l'impression que chaque jour, il y a une tuée qui se rajoute sur cette crise là, mm-hmm. au Parti libéral du Québec. Et aujourd'hui, on apprend qu'une pétition réclamant la démission du chef Pablo Rodriguez circule présentement au sein des membres du parti. Donc, c'est un courriel auquel le bureau parlementaire du Journal de Québec a pu avoir accès. Donc, c'est vraiment une pétition en faveur de la démission de Pablo Rodriguez en tant que chef du Parti libéral du Québec. C'est ça que ça dit mot pour mot. On stipule l'intégrité du PLQ dans le courriel. En gros, les membres peuvent y répondre si jamais ils adhèrent à cette pétition-là. Pour l'instant, par contre, on ne connaît pas le nombre de signatures. Puis ça se rajoute au dernier scandale qu'il y avait eu également, alors que Pablo Rodriguez a exclu de son caucus Sona Lacoyanne Olivier, justement député de Chaumedé, en raison justement que la commissaire chercherait à déterminer si la députée a utilisé ou permis l'utilisation de ressources de l'État mises à disposition du bureau de circonscription de son comté, justement. Donc, tout ça, on va continuer de suivre ça à midi, mais c'est ça. C'est une couche supplémentaire qui se rajoute sur les épaules du chef libéral
qui en a beaucoup à gérer ces temps-ci.
Ça lui glisse plus dessus ou encore sur sa coiffe comme ça glisserait sur le dos d'un canard. Là, honnêtement, Pablo Rodriguez commence à manger la vague de front. Là.
Oui, ben, il en mange de front depuis le début, j'ai le goût de dire. C'est pas nécessairement la meilleure gestion de crise.
Ben,
là,
honnêtement, au départ, moi, je le défendais. Puis après ça, on passe à tout ce qui se passe du côté des États-Unis. Mais je le défendais parce que je me disais, Colin, savais-tu vraiment ce qui se passait derrière? Mais là, il y a quand même un manque de leadership. Puis malheureusement, quand t'es chef d'un parti, il faut que t'assumes que si ça se passe mal au sein de ton parti, tu dois le prendre sur tes épaules. Puis là, il y a tellement de manquements, de manque de réponses, qu'il n'y a pas le choix. Il paie pour quelque chose que peut-être rien fait pour, mais parce qu'il est l'image du parti.
Il y a la responsabilité quand même. Je tiens à souligner également qu'il y a présentement le tirage au sort de la Coupe du monde qui a lieu. Donc, la Coupe du monde 2026 qui va se dérouler au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Donc, Mark Carney qui est en visite à Washington justement pour l'occasion. Donc, on va savoir dans quel groupe le Canada va se trouver au cours des prochaines minutes / prochaines heures.
Il pourrait se retrouver dans un groupe où ça va être super favorable à nos athlètes, à nos joueurs de soccer, en fait, et que ça puisse faire en sorte que le Canada s'affiche comme étant exceptionnel lors de la Coupe du monde. Mais il peut aussi se ramasser contre les meilleurs, finalement, ou les sommités dans le classement.
Faut souligner comment que ça marche, en gros, le tirage au sort de la FIFA, c'est comme divisé en quatre groupes. Les forts, les moins forts, puis les poches. Ben, les poches, ça reste qui se rend la Coupe du monde, là, mais en gros, c'est quatre groupes en termes de force. Donc, on pige une équipe dans chacun de ces groupes-là pour former les différents groupes qui vont s'affronter là, dans la première ronde. Ce qui est intéressant, c'est étant donné que le Canada est pays hôte, ben on se retrouve dans le meilleur groupe quand même. Fait qu'on ne peut pas se retrouver face aux 9 meilleures équipes, mais ça reste qu'on pourrait quand même se retrouver au sein d'un bon groupe. On va suivre ça de près au cours de l'émission.
Oui, puis merci à l'immigration parce qu'on s'est nettement amélioré dans plusieurs... je le dis même pas en riant.
Non.
C'est des gens passionnés. Puis le soccer est souvent laissé pour compte, mais le soccer, c'est le sport le plus pratiqué au monde. C'est celui qui coûte le moins cher et qui fait en sorte qu'un peuple retrouve une identité. Fait quand tu t'en vas un peu dans le monde, tu vas au sein de classes plus défavorisées, de gens qui en arrachent, qui n'ont vraiment pas la même vie que nous. Tu vois à quel point c'est une flamme exceptionnelle que d'avoir le soccer et de pouvoir participer aussi à des championnats du type parce que c'est un moment où ils peuvent tous se rassembler autour de la même chose. C'est le ballon de soccer puis c'est la fierté de leur équipe. Et là, ils excellent. C'est tout le temps hyper émouvant à voir, à constater partout dans le monde. Puis je te parle pas des endroits où ils ont énormément d'argent puis que tu es capable de le faire. Mais dans des pays africains, là, c'est une de ces... Je pense que c'est un joyau, honnêtement, à constater à quel point ça change le mal de place pour ces gens-là puis qui ont juste ça sur quoi se rattacher. Et ils sont... tellement fiers de leurs athlètes. Puis quand je dis merci à l'immigration, c'est que tu vois souvent de ces athlètes-là qui ont immigré ici au Canada nous faire briller dans leur sport parce qu'ils prennent au sérieux. Donc, c'est quelque chose à considérer dans votre engouement ou pas par rapport au soccer. Vous allez voir que les Coupes du monde sont le fun pour ça. C'est d'une fierté exceptionnelle. Puis pour Mark Carney, c'est pas là-dedans qu'on va vérifier qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, mais oui, il est là, entre autres pour ça, mais il y a discussion avec Donald Trump aujourd'hui, puis on espère que ce qui va en ressortir, ça va être avantageux pour les tarifs. Hey, c'est vendredi, habituellement, on a Lambert Drainville et Farnell Morissette qui s'affrontent. Moi, je pense pas que c'est un affrontement. Je pense que c'est un débat d'idées qui est fort intéressant. Lambert a eu peur, je pense, cette semaine. Il s'est dit non, moi, la semaine passée, ça a brassé. Farnell, j'ai peur de lui. Je me présente pas aujourd'hui. On l'aura la semaine prochaine avec nous. Il est juste absent. Farnell, par contre, n'a pas quitté le bateau. Salut!
Salut! Je salue Lambert aussi.
Ben
et
oui.
Je confirme qu'il n'a aucunement peur de moi.
Oh non! Il veut toujours plus de bière,
ouais,
même avec
ouais,
toi.
Exactement, oui, c'est ça.
Tu passes un bon vendredi?
Ah, super belle journée, malgré le froid. Alors, j'ai une pensée pour ceux qui peuvent pas se réchauffer.
Non.
Aussi chaud qu'il fait dans le studio, je suis d'accord avec toi.
Non, ça c'est... Je comprends pas pourquoi on est dans le sud aujourd'hui, mais oui, à tous les travailleurs extérieurs, ce que j'aime dire, c'est graissez-vous de vaseline, mais je parle du visage pour couper le froid. Farnell, ça a été une semaine assez éprouvante au niveau de l'actualité parce que ça vient un peu jouer dans ce qui est sensible. Sensible pour nos droits, sensible pour ce qui nous représente en tant que nation, on va faire plaisir aux séparatistes, nation libre, où on peut faire des choix éclairés depuis des années. Je dis ça parce que chaque fois qu'on va parler d'avortement, il y a une sensibilisation qu'on doit faire sur tout ce qui a été fait pour se rendre au droit à l'avortement chez la femme. Et on va rejouer un peu dans cette parce que j'allais dire privilège, c'est pas un privilège, dans ce droit fondamental qui est de choisir si on veut continuer, en fait, de procréer ce qui est en train de se passer dans notre ventre ou pas. Là où c'est sensible, c'est qu'il y a l'apport religieux qui entre en ligne de compte, puis ça fait des années qu'on n'avait plus nécessairement ce débat-là, qui était un peu présent, mais plus dans des discussions de famille, hein, dans des discussions de groupes d'amis.
C'est ça, c'était pas dans le courant dominant de ce qu'on parlait en politique.
En se disant, ben non, on pourrait peut-être rejouer là-dedans. Mm. On parlait pas de ça du tout. Et là, avec le projet de constitution de la CAQ, l'avortement en a une grosse, grosse place, puis on veut discuter ensemble de pourquoi les groupes de droits des femmes s'y opposent. Farnell, tu tripes droit constitutionnel, tu tripes droit entre la politique et la société, t'en as un méchant gros projet, puis un méchant beau sujet de discussion actuellement avec ce qui se passe, entre autres avec le ministre Simon-Jolin Barrette.
Ouais, ben c'est intéressant, j'ai vu hier le ministre Simon-Jolin Barrette qui a fait un vidéo qui a publié sur les médias sociaux pour essayer de défendre l'ensemble de son projet. C'est un projet de loi qui est très controversé, qui est rejeté par à peu près l'unanimité de la classe, je dirais, académique, constitutionnelle à travers le Québec. Des gens qui, leur nom vous diront rien, là, mais moi, je les connais, tu sais, des sommités québécoises dans le droit constitutionnel qui disent tout simplement qu'il faut retirer ce projet de loi-là dans son ensemble, ce qui est très, très rare comme sortie aussi forte.
On ne veut pas faire des modifications. On veut
le retirer au complet. Oui, mais ça, c'est peut-être un sujet un peu séparé. On veut le retirer parce que si c'est une constitution qui ne vient pas du peuple, si c'est une constitution qui a essentiellement été écrite par un ministre qui a peut-être consulté quelques individus, on ne sait pas trop qui, derrière des portes fermées, ben ça ne sera jamais un document qui vient des Québécois. Et il y a plusieurs risques là-dessus, mais un des risques, c'est qu'il y a peut-être des angles morts, des choses que la petite garde rapprochée d'individus qui ont écrit le document auxquels ils n'ont pas pensé. Puis je pense que la question de l'avortement, c'est peut-être ça. Mettons en contexte, là. Ce qu'il y a dans le projet de loi de constitution de Simon-Jolin Barrette, c'est qu'il y a une ligne dans ce qui deviendrait théoriquement la constitution québécoise, comme de quoi l'État québécois est obligé de toujours assurer l'accès, ou l'État québécois est obligé de défendre l'accès des femmes à l'interruption volontaire de grossesse, à l'avortement. Ce qui semble une bonne chose. Je veux dire, a priori, quelqu'un peut dire « Oui, excellent, on veut que l'État, le gouvernement, soit chargé de faire ça. » Et alors, pourquoi les groupes de droits de femmes s'y opposent? C'est très compliqué, mais le consensus qui s'est développé au Canada, c'est que la meilleure loi sur l'avortement, c'est aucune loi sur l'avortement. Puis la raison pour ça, c'est comme, par exemple, il n'y a aucune loi protection constitutionnelle de votre droit d'aller chez le dentiste. Parce qu'on n'en a pas de besoin. Parce que ça, c'est réellement pas remis en question.
Mettons, vous êtes ni obligé ni empêché.
C'est ça. C'est la liberté. Résume? La liberté individuelle, vous faites ce que vous voulez avec vos dents. Ben, pourquoi pas faire ce que vous voulez avec vos corps? Même si le principe, c'est de dire que l'État doit protéger l'accès à l'avortement, le fait qu'on rentre ça maintenant dans un texte législatif, ça veut dire qu'on est en train d'affirmer que c'est une question légale et donc une question judiciarisable.
Alors, si on souhaite encourager l'accès à l'avortement, ben on le fait au niveau judiciaire, mais ça, puis en cours, puis sur des lois, puis sur des papiers. Mais l'inverse pourrait arriver aussi parce qu'on est en train de légaliser la chose.
C'est ça. Alors, si, par exemple, il y a un article de loi qui dit que l'État garantit l'accès à l'avortement, ben cet article de loi-là peut être interprété par la suite. Ça veut dire, oui, l'État garantit l'accès à l'avortement, mais seulement si, ou seulement dans certaines situations, ou seulement dans un certain laps de temps. On garantit encore le droit à l'avortement, oui, mais seulement. Et la présence d'un article de loi devient un point d'accrochage potentiel pour des groupes anti-avortement de vouloir légiférer autour du texte exact, des mots exacts, tandis que s'il n'y a pas de loi, c'est le principe de la liberté absolue. Une autre chose que ça fait, puis ça, c'est là on rentre dans la technicalité constitutionnelle, alors je ne vais pas aller trop loin, mais essentiellement, depuis 1993, c'est établi que la question de l'avortement est une question qui relève exclusivement de la compétence fédérale, c'est-à-dire du droit criminel. C'est pour ça que c'est une décision sur le code criminel en 1988 par la Cour suprême qui a rendu le droit à l'avortement garanti par la Constitution. Quelques années plus tard, en Nouvelle-Écosse, en 1993, il y a eu une tentative de faire une loi provinciale qui rendrait essentiellement l'accès à l'avortement beaucoup plus restreint, voire presque impossible, en Nouvelle-Écosse. Et la Cour suprême a été encore une fois chargée de la décision et a décidé que ce que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse avait essayé de faire, c'était de faire du droit criminel pour cacher le droit criminel derrière une législation sur la santé.
Je suis sûr que tu as perdu la moitié
des droits. Oui, alors l'idée de ça, c'est que présentement, là, selon la Cour suprême, selon la Constitution, les provinces n'ont pas le droit de faire des lois qui touchent l'avortement. Point barre.
On fait quelque chose pour le pays,
ouais,
mais on ne va pas aller fragmenter, selon la province, le droit de choisir par rapport à l'avortement.
C'est ça. Les provinces canadiennes ne peuvent pas faire de loi qui empêche les personnes, les femmes, d'avoir accès à l'avortement.
On peut-tu faire un parallèle, par exemple, aux États-Unis, avec le pays en entier, ouais, puis les États qui peuvent un peu choisir ce qu'ils souhaitent par rapport à cette question-là?
C'est ça. C'est la situation exactement inverse de ce qui se passe aux États-Unis, où récemment, la Cour suprême des États-Unis a dit que le gouvernement fédéral ne pouvait pas faire de loi sur l'accès à l'avortement. C'est une question strictement des États. Bien, au Canada, on a la situation inverse et on veut la protéger. Alors, si le gouvernement du Québec adopte une loi qui semble revenir ou qui semble aller chercher l'avortement dans le giron provincial, bien là, ça veut dire qu'au lieu de juste être obligé de défendre le droit à l'avortement au niveau fédéral, il va aussi falloir le défendre au niveau provincial. Ça double les points d'attaque potentiels futurs au droit à l'avortement et ça double le travail de défense sur les deux niveaux, le niveau fédéral et le niveau provincial, si ça devient une question provinciale. Et c'est en gros pour ça que présentement, les groupes de femmes, même si sur papier, ça a l'air d'être un texte de loi qui veut protéger le droit à l'avortement, les groupes de défense des droits des femmes s'y opposent parce que c'est une porte d'accès de plus pour éventuellement restreindre le droit à l'avortement.
Tellement intéressant que tu nous l'amènes comme ça, tu nous le fais comprendre de cette manière-là, parce qu'on peut se dire finalement que si on fait parallèle avec le projet de santé actuellement, le ministre Dubé, clairement, il y avait des angles morts qu'il n'a pas vu venir avec sa loi 2 et il voyait un peu le branle-bas de combat que ça fait, puis des gens qui sortent un peu de partout en disant « vous avez oublié ça, vous avez oublié ça, ça va affaiblir finalement le système de santé, tout ça ». Alors, le projet de loi de Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, a été consultation fermée, comme tu l'as dit, avec certaines personnes. Il y a probablement des angles morts aussi. Donc, sur deux pans, on dit « ne faites pas ça parce qu'il y a fort probablement des angles morts, ça pourrait amener un branle-bas de combat ». Puis de l'autre côté, ça fait en sorte que ça devienne une question juridique. Donc, possiblement en cours, c'est légal, dans la légalité. Alors, ça pourrait amener des contestations au niveau provincial et pas juste au niveau fédéral. Simon Jolin-Barrette se défend comment là-dedans, lui, d'avoir touché à ça puis d'avoir voulu en faire un projet de loi?
Jusqu'à date, à ma connaissance, il n'y a pas eu de sortie très claire là-dessus.
C'est le problème actuel.
Oui. Bon, là, soyons charitables envers lui. Le projet de loi commence, a commencé cette semaine, les consultations en commission parlementaire. Alors, ce n'est pas une réelle consultation pan-québécoise. Là, c'est juste les personnes qui peuvent se déplacer à l'Assemblée nationale, qui peuvent déposer un mémoire, qui vont être invitées à présenter leur point de vue. Mais ça a commencé cette semaine. Peut-être qu'à mesure que ça évolue, après tout l'ensemble de la commission parlementaire et ensuite les relectures à l'Assemblée nationale, peut-être que cet article-là va être retiré. Mais présentement, on ne semble pas avoir d'indication là-dessus. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Si je me trompe, je demande immédiatement pardon, mais j'ai quand même cherché un peu. J'en ai pas vu d'indication claire comme de quoi, oui, on allait retirer ça. On reconnaît qu'il y a eu erreur. Et puis, ça m'inquiète un peu pour, de un, le droit à l'accès à l'avortement, qui est un droit fondamental qui n'est jamais acquis. Et de deux, ben, l'ensemble, c'est quoi d'autre comme angle mort dans ce projet de loi-là? C'est un projet de loi qui ne définit même pas qu'on va avoir des élections au Québec. Quand pourtant, c'est supposé être un document constitutionnel autonomiste du Québec. Quand le gouvernement essaye de bouger trop vite, comme il le fait présentement, je crois, ça mène à des erreurs qui, je pense, ne sont pas de méchanceté. Mm-hmm. C'est juste quand on bouge trop vite puis on n'inclut pas assez de points de vue, on manque des affaires.
Mais le problème, c'est qu'il commence à manquer de temps pour le gouvernement Legault. Il reste une année, fait qu'eux autres, tout ce qu'ils veulent faire, ben, ils rentrent dans cette année-là puis ils vont le plus rapidement possible. Puis comme tu l'as dit, ben, ça crée plusieurs points morts, point d'angle mort que pourrait être avoir des effets très négatifs pour la province.
Ben, s'il voulait en faire un projet électoral, ce serait une chose. Là, j'ai pas cette impression-là parce que ça semble même pas être quelque chose qui est poussé de l'avant autant de François Legault que de Simon Jolin-Barrette.
Ça, c'est fin de non-recevoir absolu en faire un projet électoral ou même référendaire présentement.
Ce serait se tuer politiquement parlant aussi. Là, de manière, ils en ont assez dans leurs assiettes. Mais le simple fait d'amener ça sur la table, c'est problématique. Puis tu vois un peu les réponses à tout ça. Moi, j'étais contente de t'avoir là-dessus, Farnell, parce que les gens ne comprenaient pas, effectivement. Ils trouvaient ça ironique que des groupes de femmes à la défense du droit à l'avortement s'opposaient à ce projet-là. Avec tes explications, on comprend réellement ce qui se passe puis quelles sont les discussions de ces gens-là qui s'y opposent. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu cette semaine. Léa Clermont-Dion qui a commencé à se prononcer sur une couple de sujets. Je vais faire entendre ce qu'elle a dit récemment, en fait. Par rapport au groupe masculiniste, Léa Clermont-Dion, vous la connaissez. Elle a souvent pris la parole dans les dernières années. Elle a fait partie des Carrés Rouges autrefois, on l'a connue comme ça. Mais elle a quand même décidé d'être militante à certains égards. C'est une féministe. Pour certains, c'est une féministe enragée. Mais moi, je veux dire, elle amène des sujets hyper importants dans la discussion en ce moment. Fait que si même vous la qualifiez de féministe enragée, s'il vous plaît, écoutez au moins cette prise de parole-là. Puis on revient avec le commentaire de Fanny Maurice après.
Discours masculinistes auprès de la jeunesse. Des discours violents qui sont devenus mainstream. Les femmes appartiennent aux hommes. Les femmes aiment être dominées. Je ne suis pas un violeur, mais j'aime l'idée de pouvoir faire ce que je veux avec les femmes. Women belong to men, des citations qui existent. Au Royaume-Uni, on sait que 23 % des garçons de 15 à 16 ans trouvent que les propos d'Andrew Tate sont positifs. Et les jeunes pères, donc de 25 à 34 ans, considèrent à 56 % que les propos d'Andrew Tate sont positifs. Il faut rappeler qu'Andrew Tate a affirmé après les élections présidentielles des États-Unis qu'il serait peut-être valable de retirer le droit de vote des femmes. Ce n'est pas un phénomène qui est marginal, c'est un phénomène qui se normalise. Les plateformes numériques sont donc devenues des vecteurs centraux de diffusion de recrutement des jeunes. Une étude de Baker et Jing démontre justement que les jeunes qui consomment des contenus en ligne, des vidéos, arrivent à quelques clics finalement, à 71 % à des discours masculinistes et toxiques. Il y a des impacts sur les croyances des jeunes d'être à ce point tel exposés à des discours masculinistes. Les recherches menées dans les écoles secondaires montréalaises, comme celle faite par Diane Mikouni, montrent que 34 % des élèves adhèrent à au moins un des énoncés suivants. Les garçons devraient contrôler les personnes avec lesquelles leurs copines interagissent. Les filles disent souvent non, uniquement pour ne pas paraître faciles. Selon une autre étude qui a été menée par la chaire sur les violences sexistes et sexuelles de l'UQAM, dirigée par Manon Bergeron, 75 % des jeunes de 15 à 25 ans adhèrent à des mythes qui mettent en doute la crédibilité des victimes d'agressions sexuelles. Ces discours sont axés sur plusieurs mécanismes. La domination et le contrôle, l'hyper-virilité, le rejet des émotions.
Vous voyez un petit peu la prise de parole de Léa Clermont-Dion. J'aimerais ça qu'on oublie qui parle, parce que je sais que des fois, une personnalité publique ou une personnalité qui a pris beaucoup la parole, qui a peut-être dérangé certaines personnes, fait en sorte qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, on arrête d'écouter quoi que ce soit. Moi, je veux qu'on se concentre sur ce qu'elle a affirmé selon les études qu'elle a exposées dans sa prise de parole. Puis sortons aussi du discours féministe, masculiniste et tout ça. Parlons de ce qui est important là-dedans. C'est le manque d'ouverture face à l'autre, le désir de contrôle, puis le retour à... peut-être des idées un peu fermées là, quant à la position et aussi la présence de l'autre dans notre société. Puis certains diront le rôle que devrait jouer un homme puis le rôle que devrait jouer une femme dans la société. Tu prends tout ça, puis c'est probablement une des choses qui fait le plus réagir cette année. On a vu les mâles alpha, le documentaire, ça allait de partout. On se pose la question, hey, en parler finalement, c'est-tu faire de la publicité? Puis en même temps, si t'en parles pas, ça prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux, les jeunes en parlent entre eux. C'est un peu fermer les yeux sur des phénomènes qui sont existants, puis tant qu'on ne les aborde pas puis qu'on ne discute pas, ben il n'y a pas vraiment de choc des idées dans ce cas-ci. Farnell, tu penses quoi, toi, de cet équilibre-là qui est très difficile à avoir entre le fait d'en jaser, d'en discuter et d'en faire de la promotion?
Je pense qu'on se heurte à une limite de ce qu'on est capable de faire comme communication entre générations, particulièrement avec les jeunes, par des médias de masse et par des médias sociaux. Parce que n'importe qui a déjà travaillé avec des jeunes, puis là, par jeunes, je parle d'adolescents, disons, OK? C'est qu'ils sont tous différents, ils ont tous une capacité et je dirais tous une tendance très différente de réagir à des personnes qu'ils voient comme étant dans une position d'autorité, que ce soit autorité légale, politique, morale, peu importe. Il y a des jeunes, des ados qui réagissent très bien à des messages du genre... Comme ce que Mme Clermont-Dion fait présentement, de dire ce genre de comportement-là, il est inacceptable, on devrait donner des meilleurs exemples. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes, et c'est la nature des adolescents, de vouloir se rebeller contre les autorités parce que ça, c'est une partie naturelle de faire sa propre identité. Alors, quand eux reçoivent exactement le même message, eux vont plutôt avoir tendance à dire « Ah, ben ça m'intéresse, ça, je vais en savoir plus. C'est qui les masculinistes? Qu'est-ce qu'ils veulent? » Et cet équilibre-là, il est très difficile à trouver et surtout, il n'y a pas un seul point parfait qui va s'appliquer parfaitement à tous les jeunes, particulièrement les jeunes hommes à travers la société. Alors moi, ce que j'aurais à dire là-dessus, là, c'est si vous, comme moi, vous êtes choqués par la montée de propos profondément déshumanisants envers les relations amoureuses, les relations hommes-femmes, tout ça, et vous êtes, disons, vous avez fin vingtaine, trentaine, quarantaine, peut-être un peu plus, et vous êtes peu importe, si vous êtes un homme et vous connaissez un ado dans votre vie, parlez-y. Un à un. Puis vous êtes, tu sais, on est tous, n'importe qui a l'intelligence moyenne minimale est capable de juger c'est quoi la bonne approche avec un ado qui connaît dans sa vie pour savoir, tu sais, à quel point est-ce que je devrais prendre une approche plutôt paternaliste, plutôt autoritaire, à quel point est-ce que ça devrait être une discussion d'égal à égal. Vous êtes capable de le faire et vous êtes capable de transmettre vos valeurs un à un. Avant qu'on ait les médias de masse, c'était comme ça que les valeurs se transmettaient, de façon personnalisée, d'une personne à une personne, en fonction de la relation spécifique entre deux humains, plutôt qu'essayer d'avoir un message qui essaie de trouver un équilibre qui est peut-être impossible à trouver entre la bonne façon d'aborder un sujet sans y apporter de la publicité, sans en créer une fascination envers nos jeunes.
Parce que moi, j'en fais une corrélation entre ce qu'on vient de dire par rapport à où l'équilibre entre parler d'un phénomène ou en faire de la publicité à ce qu'on est en train de faire avec Simon-Jolin Barrette et le projet de loi sur l'avortement, parce que c'est comme si le gouvernement s'était dit « Bien là, ça déborde tellement, tout le monde est en train de jaser, tout le monde est en train de se chicaner là-dessus, on veut pas que ça bouge, nous, au Québec, on tient nos valeurs occidentales, fait qu'on va en faire un projet de loi. » Puis c'est là aussi que peut-être le problème est remarqué du fait que crime, on en parle-tu assez? On a-tu encore un devoir de conscience quant à donner un peu nos valeurs à nos enfants? Est-ce qu'on a échappé quelque chose? Est-ce qu'on met ça tout entre les mains de l'école? Est-ce que l'école y arrive avec le fameux cours d'éthique aussi? Est-ce qu'on endoctrine nos enfants d'une manière ou d'une autre? On les laisse avoir la libre pensée? Mais le gouvernement, on dirait, voulait travailler en amont sur ce courant-là, peut-être, là, qui est revoir le droit à l'avortement et se dire, ben nous, on va le figer dans le temps. Mais c'est ironique de penser que finalement, il se tire plus dans le pied quand on t'écoute aussi en disant, on devrait pas toucher à ça, on devrait ne pas avoir de loi quant au droit à l'avortement parce que c'est là, finalement, où on crée plus de négatif dans tout ça. Moi, je voyais une corrélation directe avec le discours de Mme Clermont-Dion parce que je me disais, crime, faut en parler, mais est-ce qu'on travaille en amont sur ces phénomènes-là ou on revient à Chaumière puis on revient à ce que nous, on peut faire en tant qu'élément actif de la société, toi, Farnell, moi, Pascal, toi, Mathias, avec les gens qui nous entourent?
Ouais, je pense que c'est intéressant parce que les lois en particulier sont l'outil ultime de la taille unique, le one size fits all. T'sais, c'est la même loi pour tout le monde et on veut que ce soit ça. Mais ça veut dire qu'il y a des situations où, par exemple, transmettre ses valeurs, ça se fait pas de taille unique, ça se fait pas par un cours uniforme pour tout le monde. Il y a certaines choses qu'on peut certainement partager collectivement, mais il faut toujours qu'on ait de la place pour reconnaître qu'il n'y a pas deux personnes pareilles, qui n'ont pas deux ensembles de valeurs identiques, et on ne peut pas les approcher, leur partager nos valeurs de la même façon.
Oui, puis en plus, bien, avec tout ce qui nous dépasse sur le web en ce moment, est-ce que le cours va toujours être adapté? Est-ce qu'on peut vraiment mettre ça entre les mains de l'école et de l'État? La réponse, probablement, c'est non dans ce cas-ci. Paul Saint-Pierre Plamondon fait beaucoup jaser. Après la polémique Pablo Rodriguez et le Parti libéral, Paul Saint-Pierre Plamondon ont réussi à faire jaser de son parti, pas nécessairement de la bonne manière en ce moment. Ça dépend, t'es dans quel clan. Ce matin, devant mes propres yeux et en ayant les oreilles toutes déployées, j'avais un Yannick Marceau d'un bord, un Maxime Larouche de l'autre. Et ce qui se passait, c'était un débat entre un souverainiste pur et dur, de fière allure, qui se dit peu importe qui est à la tête d'un parti qui veut faire du Québec un pays, moi, je vais suivre. T'avais un Yannick qui disait, ouais, là, moi, attention, je vais regarder qui veut faire ça, je vais regarder aussi quel avantage économique ça va avoir, est-ce qu'elle va se tirer dans le pied. C'est vraiment un échange intéressant. Paul Saint-Pierre Plamondon est toujours intransigeant et surtout transparent sur sa façon de faire de la politique. Cette fois-ci, il a accusé certaines personnalités artistiques d'avoir un manque de loyauté envers le Québec en entier, puis aussi la protection de la langue française avec Miller. On a pensé quoi cette semaine?
Je pense qu'on reste dans la thématique de l'approche de taille unique. T'sais, c'est l'idée qu'il y a une seule bonne façon de démontrer sa loyauté envers le peuple québécois et que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui en est l'arbitre.
Oui.
J'ai un peu de misère avec ça.
T'as trouvé qu'il était trop, justement, impliqués dans ce dossier-là?
Non, qu'ils soient impliqués, c'est parfaitement normal. Le rôle d'un politicien, c'est pas simplement de recevoir l'opinion du public et d'en être un vecteur. Je pense que les politiciens ont un rôle de prendre une certaine charge, un certain leadership. Le danger vient quand on commence à mêler les deux rôles. Quand on a un politicien qui commence à mélanger comment lui, il croit que les Québécois devraient être et comment il affirme qu'ils le sont pour faire une espèce de situation où il s'autoproclame La volonté, les intérêts du Québec.
Et puis là, si tu ne vas pas avec moi,
C'est ça. Si tu n'es pas de mon bord, tu n'es pas un vrai bon Québécois. Je veux dire, comment on est supposé avoir une politique, une démocratie où la dissidence est permise quand le désaccord équivaut à une absence de loyauté envers le peuple québécois, envers la culture francophone, qui sont pour plusieurs personnes indissociable, oui, avec bonne raison, ça devient très difficile après ça, vouloir avoir un débat d'idées si le risque est que si t'es pas du bord de la personne qui a le plus gros micro, ben t'es plus un vrai bon Québécois. Ça devient tough. C'est l'effet à ça, j'ai l'impression, il y a probablement beaucoup d'artistes qui vont regarder ça aller et dire « Ouais, peut-être que je vais juste plus parler maintenant. » Puis ça, c'est pas à l'avantage de personne.
Je vais me permettre envoler lyrique autre que sur ce qui est politique en ce moment, mais tu sais, Mark Miller, 48 heures après avoir été nommé ministre de la Culture, même moins de 48 heures, il a fait scandale. On l'a pointé du doigt comme n'étant pas la bonne personne pour représenter la culture, puis sincèrement, qui donnait pas assez de temps et d'importance à celle qui est québécoise puis à la langue française. Il y a des artistes subventionnés qui ont dit bonjour, félicitations, on est fiers de votre élection à titre de ministre de la Culture, et c'est ça qui a choqué Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Pichet a dit, bon, Paul Saint-Pierre Plamondon a raison de s'insurger, mais devrait s'excuser. C'est quoi la différence?
Ben, j'ai vu, si je me trompe pas, il y a pas tout à fait une heure, Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fait un message sur les médias sociaux qui est une espèce d'excuse pour excuse. Oui. Là. Moi, les politiciens qui font des excuses, genre « je m'excuse si vous avez été offusqué », c'est pas une excuse.
C'est ce qu'il a
dit. Ça. C'est dans le fond, c'est de remettre la faute sur la personne qui est pas d'accord avec lui. Monsieur Plamondon est un juriste chevronné. Il a fait la même école de droit que moi, là. Je veux dire, c'est drôle quand je l'entends parler, j'entends encore mes anciens collègues à l'école. Il comprend la force et l'importance des mots et le pouvoir de la rhétorique, j'en suis persuadé. Et parler d'absence de loyauté, c'est de la rhétorique très, très lourde. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. J'espère, en tout cas, que le mot a été choisi. S'il l'est pas, c'est peut-être un peu pire. Je trouve que, tu sais, faire des appels à des excuses, c'est le genre de choses qui devient tellement commun qu'on en perd un peu la valeur du sens. Puis ça a aucune valeur, moi, tout seul ici, dans un studio de radio qui dit ça. Mais je pense qu'au lieu de parler d'excuses, il y a peut-être un devoir de faire un peu plus attention aux mots qu'on utilise, surtout quand on parle des gens qui portent réellement, jour après jour, souvent de très petits pains pour très peu d'argent, qui vivent dans le froid, dans la misère, souvent, j'exagère pas tant que ça, les gens qui portent réellement notre culture, leur dire qu'ils ont manqué de loyauté pour avoir salué la nomination d'un politicien, je trouve que c'est un peu grave. Là, je comprends M. Plamondon disait « Ah non, je visais seulement que quelques individus », mais ces individus-là sont des représentants qui ont un mandat de représenter les artistes qui sont membres de leurs associations aussi. Alors, l'insulte, je crois, était indirectement plus large que ce que M. Plamondon avait peut-être l'intention de faire.
Mais j'ai l'impression que de plus en plus, on est en train de se rendre compte que l'émotion de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Ça arrive tellement souvent qu'il s'emporte sur des critiques ou qu'il s'emporte dans la façon qu'il critique d'autres personnes. Mais à la fois, j'ai l'impression que c'est pour ça que sa base l'aime
aussi. Ce matin, je disais, on a tous le défaut de notre qualité ou la qualité de notre défaut, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, une affaire que moi, j'ai toujours dit félicitations là, à ce politicien-là, c'est avant même qu'on soit en période électorale, le gars, si on lui posait la question « Voulez-vous ramener un référendum? », la réponse était oui.
Il ne pourrait pas être plus clair avec ça. Il l'est encore. Il a gardé la ligne. C'est vrai.
Il a toujours été transparent. Puis en 2025, il en manque de transparence en politique. Lui, il a décidé de prendre sa ligne, de l'appliquer, puis pas juste après avoir été élu, par exemple, si jamais ça arrive puis que les intentions de vote vont de soi pour la suite des choses. Mais effectivement, il est même intransigeant quand tu viens qu'à y parler. Est-ce que ça peut coûter cher en politique? Probablement. En ce moment, Paul Saint-Pierre Plamondon, utilise sa qualité comme un défaut, puis en même temps, on ne peut pas vraiment lui reprocher parce qu'on a clairement l'heure juste avec lui. Mais en dernier lieu, ce que ça peut mener aussi, c'est de le faire mal paraître parce qu'il n'est pas rassembleur. Et ce qu'il souhaite, c'est rassembler les gens au Québec pour peut-être en faire un pays. C'est son souhait. C'est un peu ironique.
C'est surtout, tu sais, il y a un adage en politique qui est, c'est un adage en anglais, je vais le traduire, mais les amis s'additionnent, les opposants se multiplient. Alors, il faut faire attention là-dessus. Et la position de M. Plamondon, ça semble être, il dit se défendre, mais j'ai l'impression que c'est on réagit aux critiques par une attaque. Chaque critique, une attaque en réponse, attaque en réponse. Puis juste dans les derniers mois, je veux dire, si on parle de gens avec qui M. Plamondon s'est montré, je dirais, agressif, je ne veux pas dire hostile, mais disons fort.
C'est toi qui choisis tes mots.
Ben c'est ça, tu sais, il y a eu, je veux dire, juste dans les derniers mois, il y a eu Lucien Bouchard, Yasmine Albelfadel, Régis Labeaume, l'ensemble de la presse et son
l'ensemble.
C'est l'ensemble, ben je dis l'organisme la presse, pas la presse dans son ensemble.
On peut nommer tous les médias.
Dont François Cardinal. Bon, là, il y a eu les artistes et plus récemment Radio-Canada. Je veux dire, il va rester qui quand il va avoir besoin d'alliés, quand il va avoir besoin de former une réelle coalition pour former, selon lui, un gouvernement pour ensuite un référendum?
Ce sera-t-il l'arrivée d'un manque de transparence parce qu'il n'y aura pas le choix de s'excuser mais de ne pas le penser officiellement?
Ben, je ne sais pas. J'ai l'impression que présentement, il y a peut-être un sentiment à l'intérieur de la garde rapprochée au Parti québécois qui se dit « on est premier dans les sondages, donc tout va bien ». Mais je pense que c'est peut-être en partie parce que présentement, on n'est pas en élection. L'attention des Québécois est ailleurs. Alors, une fois que l'attention va se retourner vers ça, c'est là qu'on va revoir tout ce qui se passe et dire « Attends une minute, là, est-ce que c'est vraiment de ça qu'on parle? » Et je pense que ça risque d'être très surprenant pour beaucoup de personnes.
Mais si, ce qui se pourrait aussi, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon, présentement, il a de la crédibilité parce que, justement, il a une opinion forte puis il maintient son opinion. Donc, il ne se contredit pas. Ce qui fait en sorte que, présentement, étant donné qu'il n'y a aucun autre chef que la majorité des Québécois considèrent crédible, il gagne énormément de capital politique pour ça. Fait que peut-être que ça va l'aider pour son élection. Mais effectivement, une fois rendu au référendum, là que c'est le temps de rassembler, que c'est pas juste convaincre le monde que tu es le chef le plus crédible, mais convaincre le monde que c'est une bonne idée, puis le monde de tout type que c'est une bonne idée, peut-être que ça va être plus difficile, justement.
Mais moi, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il soit rassembleur dès maintenant, puis pas en échapper d'autres, parce que ça se construit sur du long terme, là.
Oui, ça se construit sur du long terme, et je veux dire, je désolé pour le cliché, là, mais les Québécois, on se souvient. On a la mémoire longue pour ce genre de choses-là. Ben, je veux dire, les individus qui vont avoir été écorchés par M. Plamondon vont s'en souvenir.
T'as raison.
Et ça, c'est la base d'une coalition dont n'importe quel politicien a besoin pour former un gouvernement. Tu ne peux pas former un gouvernement sur ta personnalité et sur ta popularité individuelle à toi. Il faut que tu ailles chercher les autres acteurs de la société civile qui, eux aussi, se font écouter par le public. Et à mesure de se tourner contre ces gens-là, à montrer les crocs à la moindre critique, ça va être difficile de rallier ce monde-là au moment où on en a besoin.
Bien, clairement, François Legault nous le démontre cette année.
Exactement.
J'avais l'impression de t'entendre durant une analyse de François Legault, puis à quel point c'est François Legault Inc. en ce moment à la CAQ. Puis malheureusement, c'est peut-être pour ça qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le parti, puis s'il va être si ça va être une pérennité, en fait, pour cette formation politique-là. Hey, Farnes, c'était bien fun de t'avoir vendredi. Merci d'être passé.
Toujours agréable. Merci de m'inviter.
De la semaine prochaine, on retrouve Farnel aux côtés de Lambert Drainville puis certainement Jean-François Fortin qui est juste dans un tournoi avec son enfant parce que c'est un bon
congé.
Père impliqué. Ben, pas tant parce que c'est de la peau quand même.
Un congé
sans qu'il travaille pas mal plus fort que nous présentement.
Oui, aussi, je pense, nous autres, on prend presque une bière autour d'une table. Hey, bon vendredi, frisquet, frette, Farnel.
Merci, bonne journée à tout le monde.
Comme tu l'as dit, c'est vendredi, la circulation commence tôt vendredi.
Déjà, nous, on était tellement dans une belle matinée ce matin, il n'y avait presque rien, un incident. Là, puis un autre, il y en avait effectivement juste deux. Par contre, effectivement, pour le retour à la maison, habituellement, midi 38, on est pas mal là.
Oui, et puis ça commence, ça, c'est encore léger dans plusieurs secteurs légers. Il y a des bons ralentissements, mais rien par rapport à ce que vous allez avoir à partir de 2h tout à l'heure. Donc, je commence sur Laurentienne, direction sud, en arrivant sur Capitale, ralentissement à prévoir. Également, Capitale, direction ouest, entre Henri-Bourassa et Laurentienne, justement, il y a le ralentissement habituel qui commence tranquillement, pas vite, à voir le jour. Capitale, direction est, cette fois-ci, c'est entre Pierre-Bertrand et un peu après Robert-Bourassa qui a un ralentissement à prévoir dans le secteur. Robert-Bourassa, direction sud, en arrivant sur le Bourgneuf, ralentissement à la lumière également. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Courte pause, on fait un bulletin de nouvelles au retour et Irénée Rutema sera avec nous aussi. On va aller parler un peu de politique municipale. On n'a pas le choix.
Ça brasse.
Il y a eu deux rendez-vous, un grand rendez-vous, Legault et Marchand. Puis Marchand, Bruno Marchand, maire de Québec, ont rencontré également le nouveau maire de Lévis, Stephen Blainey, dans les dernières heures.
On en jase jusqu'à 14 heures. On en jase.